France Culture, les matins d'été.
Il se dresse dans le forum du centre Pompidou-Metz, un arbre de 15 mètres, moulage en bronze d'un noyer. Pas de feuilles, des branches, l'une est de marbre blanc, elle semble avoir été coupée. Peut-être est-ce elle qui est par terre, couchée un peu plus loin sur le sol de terre. Cet arbre, cette sculpture, c'est votre œuvre. Indistinti confini noce, traduit frontières indistinctes noyées. Giuseppe Pennone, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Cette sculpture est donc à voir depuis le 12 juin et jusqu'au 9 janvier dans le hall, le forum du centre Pompidou-Metz, dans le cadre de son 10e anniversaire. J'ai essayé de donner une image, mais évidemment ce sera mieux par vous-même. Pouvez-vous nous décrire cette sculpture, Giuseppe Pennone ?
Oui, bien sûr. Non, c'est une sculpture qui a été faite à partir de moulage d'un arbre qui était noyé et qui était tombé. Il avait une forme très drôle parce que la partie, il y avait un tronc au milieu, les branches, elles étaient un peu anthropomorphe, il y avait un côté un peu anthropomorphe de ces branches au milieu. Et à partir de ça, je pensais de le faire fondre en bronze, de le mouler, de le faire fondre en bronze. Et la partie centrale, la branche centrale qui avait cet aspect anthropomorphe, je l'ai moulé aussi, mais dans le creux du bronze, je révélais le corps de l'arbre et je fais ça en marbre. Alors il y a ces deux éléments, le bronze et le marbre. Le bronze qui est une matière qui fossilise le végétal d'une façon extraordinaire parce qu'il est très mimétique par rapport au végétal. Le marbre par contre, il a cette douceur qui est un peu la douceur du corps, la douceur de la chair. Et aussi, le travail a été fait pour indiquer aussi cette possibilité que nous, on a de lire les éléments qui nous entourent et de les associer et de rendre le tout complémentaire ou bien qui est intégré comme un seul corps existant sur la Terre.
Alors, nous allons en reparler. Savez-vous, Giuseppe Pennone, que des oiseaux et des oisillons ont été vus sur votre sculpture au centre Pompidou-Metz, en tout cas pendant quelques jours?
Ah ben ça c'est quelque chose qui arrive souvent à ces gens d'œuvre, parce que pour eux, c'est le bon élément pour se reposer. Et alors, ils vont s'approprier de la sculpture, les oiseaux. Ça m'est arrivé pour beaucoup d'œuvres. C'est un public que j'aime.
Alors, cette sculpture est donc placée dans le forum du centre Pompidou-Metz. Le musée dit que votre œuvre entre en résonance avec la charpente du centre dessinée par l'architecte Shigeru Ban. Comment vous percevez-vous cette résonance?
C'est une résonance qui est sur... on retrouve, si on veut, dans la charpente, des éléments qui sont structurels aussi dans la forme des arbres. Alors c'est quelque chose, c'est comme s'il y a le modèle naturel et une synthèse géométrique du modèle dans la charpente. Il y a cette relation. Le lieu est un lieu qui est intéressant et assez unique pour dans les musées, parce que c'est un espace qui est intérieur et en même temps c'est ouvert. Alors l'œuvre est protégée et en même temps c'est très visible par le public.
Alors ce lieu, c'est aussi, vous dites un lieu ouvert, c'est aussi un lieu de passage. On a parlé des oiseaux, mais est-ce que vous souhaitez aussi que les visiteurs, les passants, marchent autour, marchent sur le sol, sur la terre?
Qui marche autour, c'est normal. La terre, je dois dire qu'elle a une fonction aussi de pratique, parce qu'elle masque la base de l'arbre. Il y a un socle en métal qui est structurel, et ça, cette matière, elle cache ce socle. Un peu un camouflage qui s'est rendu nécessaire. Mais en même temps, c'est très juste par rapport à la branche qui est au sol. qui rentre, parce que alors, la terre va délimiter une partie du sol, et dans cette limitation, il y a la branche qui est par terre et positionnée.
Giuseppe Pennone, vous avez fait, on le sait, donc, de la nature votre matériau et votre sujet. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle et sur ce retour de la nature ou retour vers la nature qui est beaucoup analysé, beaucoup commenté depuis le début de la crise du coronavirus?
Moi, j'ai commencé mon travail dans le 68.
Oui.
Et à ce moment-là, il y avait une situation dans l'art qui était d'intérêt de génération précédente vers l'art abstrait. Et au contraire, il y avait les jeunes artistes qui avaient un intérêt encore pour l'art abstrait, bien sûr, mais il y avait aussi un intérêt social. Il y avait un retour de la figure de l'homme, pas forcément sous forme d'image, mais sous forme des émotions, des intérêts. Et moi, la réflexion que j'avais faite, c'était que la nature avait été oubliée pour plusieurs décennies. Il y avait seulement la peinture impressionniste qui avait sublimé la nature. Et après ça, il y avait moins la présence de la nature dans l'art. Et surtout, le lien de la sculpture avec l'espace extérieur. La sculpture extérieure était plutôt de monuments, de mémoires pour la guerre ou pour des événements historiques. Mais il n'y avait pas de réflexion de la sculpture par rapport au lieu, par rapport au paysage, par rapport... Et tout ça m'a fait réfléchir à ce qui est l'arbre, à sa forme qui est fluide dans le temps, à cette unité des éléments qui est entre les animaux, les végétaux, les minéraux. Après tout, c'est une seule matière qui forme le monde. Et si on réfléchit à ça, c'est des considérations très simples, mais d'un coup, c'est bien presque incompréhensible la position culturelle de l'homme comme dominant sur la nature, parce que tous les éléments sont paritaires. Et avec cette réflexion, moi j'ai commencé à travailler. Et aujourd'hui, cette réflexion est plus acceptée.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une réflexion que vous menez depuis très longtemps. Peut-être ce qui change là, c'est la façon dont peut-être davantage de personnes peuvent partager ça ou le comprendre ou l'entendre différemment à la lumière aussi de ce qui nous est arrivé.
Oui, mais ça, c'est quelque chose que pour nous, c'est catastrophique parce qu'on pense que l'homme, on pensait au moins que l'homme avait un pouvoir total presque sur la matière. Et là, on s'aperçoit que ça suffit, un petit élément vital de la nature qui ne nous convient pas et que tous nos systèmes économiques, sociaux et toutes nos règles de vie changent. Ça, c'est très frappant. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas nous surprendre, je pense.
Giuseppe Pennone, vous êtes associé au mouvement de l'Arte Povera, qualifié ainsi dans la deuxième moitié des années 60. Art pauvre en français, pauvre évoquant une certaine sobriété, en particulier dans les matériaux utilisés, le bois, la terre, les végétaux. Vous rappelez toujours que c'est la critique qui a défini, désigné ce mouvement et non les artistes eux-mêmes. En l'occurrence, c'est Germano Celant qui est mort à la fin du mois d'avril dernier. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous et pour le regard sur l'art et l'histoire de l'art en Italie?
Germano... Pour moi, était un ami. Il s'intéressait à mon travail du début. J'avais 21 ans quand j'ai fait la première chose. Et lui m'avait demandé de lui envoyer du matériel pour le livre qu'il était en train de faire, qui était le livre Arte Povera, qui est sorti dans le 69. Et c'est une personne qui avec laquelle j'ai souvent travaillé pour les expositions qu'il avait fait de groupe, et avec lequel j'avais un lien personnel, dans le sens que il était originaire d'un petit village qui est pas loin de mon village, mais sur le côté de la mer. Ça s'appelle Leca d'Albenga. Et la dernière fois que je l'ai vu, que je l'ai rencontré, c'était au Palais Iéna, il y a un an.
Oui.
On avait fait une rencontre avec lui et, à la suite de l'installation que j'avais fait là.
Oui.
Et en parlant, il m'a demandé le lien que j'avais encore avec mon village. Et on a parlé des deux villages. Mmh. Alors c'était après tout, c'est... toutes les fois que je l'ai rencontré, il y avait une discussion qui était générale sur la situation de l'art. Lui, il avait une capacité de synthèse, de compréhension des choses qui est remarquable. Et, mais après, il y avait ce côté, disons, humain, ce côté familial presque, qui nous liait et qui le rendait... sa personne familière.
Alors, sur l'Arte Povera, justement, je vous propose d'écouter l'un des artistes qui, comme vous, y est associé, le peintre, sculpteur Michelangelo Pistoletto. C'était sur France Culture en 2011, avec Marie Richeux dans Pas la peine de crier.
Mais Celant, il a inventé ce mot... que tout d'abord on a dans un certain sens, je vais pas dire refusé, mais on n'a pas très bien compris. Mais finalement, de plus en plus, je me rends compte que le mot était juste. Le concept de pauvre, c'est pas la pauvreté comme misérabilité, c'est le contraire. C'est que avec la pauvreté, on peut donner de la valeur à la vie et sortir de la misérabilité. Le pauvre, c'est le concept de la racine fondamentale. Pauvre, c'est l'utile sans le surplus. Hein. C'est le retour à des fondements. Des fondements qui arrivent du passé, qui sortent de la nature même, c'est-à-dire la matière en elle-même, et aussi le concept d'une réalité que nous pouvons faire sortir d'une recherche intime, profonde. Donc l'art pauvre, c'est cette profondité.
Michelangelo Pistoletto sur France Culture en 2011, Giuseppe Pennone, pauvreté comme manière de donner de la valeur à la vie, vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu?
Oui, je suis d'accord. Peut-être il y a un peu de rhétorique dans cette vision des choses, mais c'est vrai que si on pense à la pauvreté, mais surtout au sens qu'a donné Germano à ce mot, je pense que c'était plutôt l'idée de travailler avec des moyens qui n'étaient pas les moyens nobles de la sculpture. Et c'était l'idée, par exemple, de travailler avec la structure même de l'art, au lieu que avec une action qui était presque politique, où c'était la possibilité de travailler avec des matériaux qui étaient inattendus. Et c'était plutôt ça, à mon avis, ce que j'avais compris de ce mot. Ce mot qui a une vastité extraordinaire. On peut parler de San Francesco d'Assisi ou de Madonna ou de ce que vous voulez, et ça marche toujours.
Pour terminer, Giuseppe Pennone, beaucoup note en ce moment, depuis quelque temps, une évolution du marché et des goûts aussi, qui irait vers des choses un peu moins spectaculaires que ce que l'on a pu connaître depuis le début des années 2000. L'art doit-il, selon vous, sortir de cette logique de marché? Mais surtout, est-ce que c'est possible?
Ça a toujours existé. Le marché suit toujours l'œuvre, suit toujours la production des artistes. Cet aspect-là que vous dites, c'est quelque chose que j'aime bien et il m'appartient aussi. Moi, j'ai fait l'idée de faire des arbres, c'était qui sont spectaculaires. Sont spectaculaires,
oui, c'est une forme de spectaculaire, oui.
Oui, mais ce n'est pas pour faire une œuvre spectaculaire, c'était pour souligner les contenus d'une vision des choses, parce que ce n'est pas que j'ai fait une arbre, quelque chose qui est plus grand de ce qu'il est d'habitude pour donner spectacularité à cette forme. C'est une forme qui a une logique, qui a une nécessité, qui est vitale et qui est spectaculaire pour cette raison. Et cet aspect-là, cette spectacularité-là, c'est la même de la nécessité pour faire un dessin. Un dessin qui est fait avec une logique, qui a un contenu et qui a une fonction qui est capable de créer des émotions à la même valeur. Alors, en principe, un petit dessin ou une grande installation peuvent avoir la même intensité, la même force. C'est quelque chose qui change au point de vue de la valeur de marché, mais qui ne change pas au point de vue de la valeur du contenu. Mmh.
Alors, votre sculpture « Indistinti confini noce frontières indistinctes noyées » est à voir dans le hall, le forum du Centre Pompidou-Metz jusqu'au 9 janvier 2021. Je signale également qu'il est possible de voir au domaine de Chaumont-sur-Loire justement des gravures et certains de vos dessins, une trentaine autour des arbres. Merci beaucoup Giuseppe Pennone d'avoir été avec nous depuis Turin, chez vous en Italie ce matin. Et je renvoie aussi vers le site de France Culture, franceculture.fr, pour retrouver votre masterclass menée par Arnaud Laporte. C'était il y a un an, en août 2019. Merci beaucoup.
Merci à vous.